je suis tombée en plein dedans, sur tous les niveaux. C'est-à-dire quoi, là, je me suis mariée et mon mari, il était devenu ma priorité.
T'as récupéré la casquette d'épouse, mais t'as pas récupéré ta casquette de toi personne, et c'est là que t'as flanché.
Je vais chez la sophrologue, donc du coup, je suis accueillie par une sœur très gentille, très souriante, et elle me pose deux questions qui ont changé ma vie.
Pour toi, le manque d'amour de soi-même est lié à un manque de connaissance de soi-même.
Si toute ta vie, tu portes un masque, à quel moment, en fait, tu le retires? Comment tu peux aimer une personne que t'as jamais côtoyée?
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Lorsque j'ai décidé de créer le Halal Love Podcast, c'était avant tout pour partager des informations que l'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Des réalités pas toujours tendres, portées par des invités qui n'ont qu'une envie, nous accompagner vers une union plus apaisée et qui s'inscrit dans la durée. En partageant son histoire sans phare, Gundo, coach en psychologie positive et thérapeute de couple, esquisse pour toutes celles et ceux qui voudront bien l'emprunter, un chemin vers une union équilibrée. Attention, celui-ci demande de se regarder droit dans les yeux, de se libérer de masques sociaux que l'on met parfois des décennies à constituer, d'apprendre à s'aimer, et enfin, de se responsabiliser. Gundo, c'est une amie qui nous veut vraiment du bien. Vous savez, de celle qui n'hésite pas à nous mettre sous le nez une réalité que personne n'ose montrer, mais qui accepte de prendre cette responsabilité juste pour nous voir briller. Je précise que ces conseils et nos propos s'appliquent uniquement à des unions saines et non à des situations où la violence physique et ou psychologique est pratiquée. Mais assez parlé, je laisse place à mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une merveilleuse écoute.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Gundo, comment tu vas?
Wa alaikum salam, ma soeur, comment tu vas, toi? Moi, ça va.
Ouais, je vais très tard. Tu commences vraiment très bien. La première fois qu'on me demande comment je vais avec autant d'empathie. J'aime tous mes invités, mais là, vraiment, j'aime beaucoup.
Ah bah, écoute, tant mieux.
Alhamdoulilah. Ouais. Ma première question, Gundo, c'est... moi, quand j'ai regardé ton site internet, j'ai vu que tu te présentais comme une femme, une épouse, une maman et une coach en psychologie positive. Mmh. Et je me suis dit, enfin, j'ai eu le sentiment que cet ordre-là n'était pas anodin. Donc l'idée, en fait, c'est que t'as séparé ça pour bien, quelque part, te rappeler à toi-même, ouais, que toutes ces identités-là, elles font partie de toi et que une ne doit pas prendre le
dessus sur l'autre. C'est ça.
C'est la recette pour pas s'oublier, selon toi?
Selon moi, oui. Après, voilà, chaque personne est différente. Il y en a peut-être qu'elles arrivent à tout mélanger en même temps. Mmh. Moi, en tout cas, je sais que ça n'a pas fonctionné pour moi. Et c'est vrai que, voilà, tu sais, quand tu rentres dans le mariage, tu veux tellement être la femme parfaite.
Parfaite, voilà. N'est-ce pas? Bien sûr. Voilà.
Tu es de la femme parfaite, ça veut dire que tout ce qui est autour, eh ben, en fait, tu as tendance à le mettre de côté. Tu vois, donc même ta féminité, en fait, tu es féminine que pour ton mari. Tu prends soin pour ton mari, parce qu'il faut que tu sois soin pour lui, tu vois. Et puis, après, ce côté-là, tu le mets un peu de côté parce que tu deviens maman. Du coup, bah, ton mari, il est négligé. Et puis, après, quand t'es trop dans le travail aussi, tu négliges tout. Ton rôle d'épouse, ton rôle de maîtresse de maison, et même ton rôle de maman. Donc, en fait, il faut un juste milieu. C'est important qu'il y ait un juste milieu. Parce que déjà, pour être une bonne épouse, il faut que tu sois bien avec toi. Déjà, ça c'est une. Ensuite, pour être une bonne mère, il faut aussi que ça se passe bien avec ton mari. Et pour être une bonne coach dans ton travail, il faut aussi que ça aille bien personnellement. Parce que comment tu peux accompagner des gens si toi-même tu ne vas pas bien?
Et le fait d'aller bien tient sur cet équilibre-là.
C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a moi d'abord, il y a mon mari, il y a mes enfants et il y a mon travail.
Ok, J'aime. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce que tu as dit. C'est que déjà, quand tu parlais, tu vois, en fait, quand tu disais, si tu t'oublies en tant que, au début, tu commences à t'oublier pour ton mari. Puis après, les enfants arrivent, tu commences à négliger ton rôle d'épousée. En fait, tu sais, j'avais l'impression que c'était des petites poupées qui se jartent en fait, les unes des autres. Ah, pousse-toi, ah, pousse-toi, là, c'est moi, pousse-toi, là, c'est moi. Et en fait, effectivement, ça n'a pas de sens, en fait. Parce c'est que ça. La réalité, c'est qu'on est différentes identités. Et si tu te focalises sur une et que tu laisses toutes les autres, il y a forcément la balance, elle n'est pas du tout à l'équilibre, en fait.
Ça fait.
Mais je compte en parler après, mais on peut en parler dès à présent. C'est que comment tu fais pour maintenir cet équilibre, parce qu'en fait, je pense que la réalité, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épouses en sont là, en fait,
oui.
Beaucoup de femmes en sont là, et elles n'arrivent pas à garder cet équilibre-là sans culpabiliser. J'ai l'impression que ça, c'est aussi l'un des grands sujets, c'est qu'on culpabilise d'être une femme avant parfois d'être une mère. Et on a du mal, du coup, à maintenir cet équilibre-là. Donc, comment c'est possible, en fait ?
Honnêtement, moi, pour le coup, je suis tombée en plein dedans, sur tous les niveaux. Ouais. D'accord ? Vraiment sur tous les niveaux. C'est-à-dire que, voilà, je me suis mariée et mon mari, il était devenu ma priorité. Il est complètement devenu ma priorité. En soi, je m'oublie pas trop parce que j'avais du temps pour moi. Et par contre, quand ma première fille est arrivée, mon mari, je l'ai mis de côté. Après, c'était inconscient.
Pardon, mais moi, j'ai pas d'enfant. Et à chaque fois, je me dis, mais je ne juge pas du tout. Hein, mais je me dis juste, comment c'est possible ? C'est-à-dire, quelle forme ça prend ? Parce qu'en fait, entre un mari et un enfant, c'est pas les mêmes fonctions. Donc en fait, comment tu peux remplacer l'un par l'autre ? Mais c'est pas du tout un jugement. Hein, c'est juste que justement, je ne sais pas. Je ne suis pas passée par là, donc je ne comprends pas, donc j'aimerais comprendre. Comment, à quel moment tu changes l'un pour l'autre ? Parce que pour moi, un enfant et un mari, c'est pas pareil, tu vois ?
Ouais, mais franchement, je ne voyais pas comme ça non plus, tu vois ? C'est-à-dire que, je ne sais pas, un exemple tout bête, hein, mon mari il sort du travail, je l'entends arriver, je l'accueillais devant la porte, tu vois ? Moi, quand j'ai eu ma fille, en plus c'était mon premier enfant, ça je ne le faisais plus déjà.
Il a remarqué ça ?
Ah oui, mais il m'a fait la réflexion. attends.
Tu m'accueilles plus ?
Tu vois ? Il m'a pas dit tu m'accueilles plus, mais il m'a dit depuis que je suis rentrée, tu m'as pas regardée une fois. Il me fait, en fait, je sais pas si tu t'en rends compte, mais depuis qu'on a notre enfant et je sais que voilà, tu veux vraiment être une bonne maman, tu me négliges un peu. Donc j'ai entendu. Mais honnêtement, je me suis dit quoi ? Je me dis, écoute, déjà, c'est pas pareil. J'ai un petit être. C'est-à-dire que si je m'en occupe pas correctement, il peut partir. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un enfant, il faut que je le nourrisse. Si je le nourris pas aussi, c'est fini. Tu vois, lui, c'est un adulte, c'est un grand. Il doit comprendre. Mais franchement, sa réflexion m'a fait... Je vais pas dire que ça m'a blessée, mais... Ça m'a interpellée. Et il m'a dit, tu sais, Gundo, si aujourd'hui il y a un enfant, c'est parce qu'il y a eu un couple. Et ça m'a vraiment fait ça m'a vraiment fait réfléchir.
C'est beau ce qu'il a dit, je trouve.
Et quand il m'a dit ça, honnêtement, je faisais plus attention, en fait. Je fais plus attention.
Ah, donc tu l'as vraiment pris en considération,
oui.
Ce qui est bien déjà.
Oui, oui, oui. Parce que de toute façon, pour moi, le couple, c'est très important. Et quand il m'a dit ça, je dis, ouais, ok. Écoute, ça sert à rien de se vexer ou machin chose, parce qu'il ne me l'a pas dit de façon énervée ou autre, tu vois, il me l'a juste dit, parce qu'il fallait qu'il me le dise. Et heureusement qu'il me l'a dit, parce que je ne sais pas en fait si j'aurais continué du coup à être en mode que mon enfant. Donc il y a mon mari, il y a mon enfant, les deux je les aime, donc les deux je vais les chérir. Et à ce moment-là, je dis, ah ouais, c'est quelque chose. Mais
et
c'est
à
clair
quel moment
que...
toi tu t'es dit pardon, mais en fait du coup, parce que là si on reprend le chemin inverse, effectivement, donc il y avait ton enfant, hop, tu reprends la casquette d'épouse qui avait juste avoir la casquette de mère, et à quel moment t'as repris ta casquette de moi Gundo, parce que du coup t'as dit une phrase qui est très intéressante, t'as dit j'aime mon mari, j'aime mes enfants, les deux je dois les chérir, très bien, mais tu t'aimes toi aussi,
Oui.
Donc en fait, à quel moment tu te rappelles que bah, toi aussi, il faut que tu t'aimes?
Bah non, je... à ce moment-là, je... mais justement, moi, je me suis vue, c'est là où je suis tombée, en fait.
Ouais, mais on est d'accord, parce qu'en fait, t'as récupéré la casquette d'épouse, mais t'as pas récupéré ta casquette de toi, personne, et c'est là que t'as flanché. Okay.
C'est ça, c'est là où je suis tombée, en fait. Donc en fait, ça se fait tout doucement. Hein. C'est jamais d'un coup. Ça se fait tout doucement. Ensuite, j'ai un petit garçon, et bah, là, je suis carrément tombée à terre, tu vois. Je suis carrément tombée à terre, tu vois.
Donc, t'as pas récupéré ta casquette de personne tout de suite? Non. C'est-à-dire que ça a été après la naissance de ton deuxième enfant.
C'est ça. En fait, ça s'est fait tout doucement, comme je te l'ai dit. Crescendo. Mais quand mon fils est arrivé, c'est là où je suis tombée.
Qu'est-ce que t'appelles tombée? Et comment ça s'est passé, en fait?
Alors, j'ai un petit garçon, donc la grossesse a été très difficile. Il était prématuré, il était sous couveuse, donc je me donnais encore plus dans mon rôle de maman.
De mère, ouais.
Je voulais que tout soit vraiment parfait pour mon mari, pour mes enfants. Je veux que la maison elle, soit impeccable, que le repas soit fait. Et déjà, j'avais accumulé beaucoup d'émotions que je laissais pas paraître.
Comme quoi ?
J'ai stocké beaucoup de choses. Je m'autorisais plus à faiblir. Je m'autorisais plus à pleurer. J'avais pas le droit. Je m'interdisais, en fait, de pas être bien. Il fallait vraiment que je sois un soldat pour ma famille.
Pourquoi? Parce que tu disais, non, mais j'ai pas à me plaindre, j'ai des enfants, j'ai un mari.
Voilà.
Y a pas de quoi être mal.
Puis voilà, le simple fait de trop vouloir bien faire. Alors qu'en soi, personne m'obligeait à faire quoi que ce soit. Je le faisais pour moi. La pression, je me suis mise toute seule. Et quand j'ai compris ça, encore une fois, mon mari est intervenu. Alhamdoulilah, franchement, mon mari.
Passe à salam à Mohamed. Et il a intervenu comment?
C'est-à-dire que, voilà, après notre retour à la maison, parce que j'étais hospitalisée longtemps avec le petit, et à mon retour à la maison, il m'a dit, Gundo, tu ne vas pas bien. Quelques jours après notre retour, il m'a dit, Gundo, tu ne vas pas bien. Il me dit, il faut que tu prennes du temps pour toi. Il m'a dit ça. Et je lui ai dit, ok. Et je me suis dit, à quel moment il veut que je prenne du temps pour moi, en fait? Tu vois? À quel moment?
Il a pas compris qu'on avait deux enfants? Il est pas au courant?
Ouais, je crois qu'il est pas conscient de tout ce que je fais. Tu vois? Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, oui, écoute, je connais une sœur, c'est une sophrologue, je pense qu'elle pourra te faire du bien. De toute façon, t'as rien à perdre. Tu vois? Et honnêtement, j'ai accepté pour lui faire plaisir. Parce que dans ma tête, je me dis, mais je vais faire quoi?
T'étais pas convaincue?
Oui, déjà, le sophrologue, je savais pas c'était quoi. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Voilà, quoi. Et j'ai accepté. Donc, prise de rendez-vous. Et sur le chemin, ça faisait super longtemps que je m'étais pas retrouvée toute seule. Et je me souviens de cette journée, il faisait beau. Honnêtement, j'ai vraiment vécu un moment magnifique depuis... alors que ça faisait super longtemps que je l'avais pas vécu, quoi. Et je vais chez la sophrologue, donc du coup, je suis accueillie par une sœur très gentille, très souriante. Et elle me pose deux questions qui ont changé ma vie. C'est fou,
c'est
hein.
C'est vrai?
Je te jure. Elle me dit, est-ce que tu peux te présenter en tant que toi, Gundo? Et ce que je dis, c'est, écoute, je m'appelle Gundo. À ce moment-là, j'avais 32 ans. Tu m'appelles Gundo, j'ai 32 ans. Je suis mariée et j'ai deux enfants. Voilà ma présentation. Et elle me dit, oui, mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi? Et je savais pas quoi dire. Et ça m'a fait mal.
Ouais, tu l'as ressenti. Tout de suite, tu t'es dit, il y a un problème.
Il y a un problème. Ensuite, elle m'a dit, qu'est-ce que tu aimes faire? Je sais pas. Et ça, encore une fois, ça m'a mis un crochet.
Je l'ai ressenti, tu vois, je l'ai reçu pareil, parce que ce silence de... je n'ai pas de réponse à te donner, quoi, sur ce que j'aime.
Ouais,
c'est fou, quand même.
C'est fou.
C'est fort.
C'est très fort. Et donc, après, voilà, on fait notre petite séance, elle me fait beaucoup de respiration. Par cette cause, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dormi comme un bébé, parce que je ne dormais plus, en fait. Je n'arrivais plus à dormir. Même quand j'avais rien à faire, je n'arrivais plus à dormir. La nuit, c'était très compliqué. Je dormais quoi, 1 à 2 heures, pas plus. Je te jure, c'était horrible. Hein. Franchement,
je suis tombée. Pas aller bien en plus quand tu dors aussi peu de temps. En fait.
Mais c'est ça. En fait, je suis tombée dans un burn-out. J'ai fait un burn-out et j'ai fait aussi Le baby blues. Postpartum aussi.
T'as tout cumulé, quoi.
Ouais,
très bien.
Voilà. Donc, quand je suis rentrée après la sophrologue, j'ai dormi. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, c'est fini, en fait. Parce que avant de me marier, j'étais une personne, honnêtement, je m'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'amour pour moi. J'aimais faire plaisir les autres, mais j'aimais également me faire plaisir. J'étais consciente que j'avais des manquements, mais je travaillais pour m'améliorer. Et le simple fait, en fait, d'arriver là, j'ai dit, mais attends, t'as tout pour être heureuse, pourquoi tu te mets mal comme ça, en fait? Et franchement, ça a été un déclic pour moi. Et je me suis dit, c'est bon, en fait. Là, je vais m'occuper de moi. Je vais aller mieux pour moi, pour mes enfants et pour mon mari. Parce que là, je suis une épave. Et c'est plus possible. Mmh. Et ça, cette décision, je l'ai prise et c'était mort. Dès qu'il y avait quelque chose qui me tracassait, je suis, ça suffit, Gundo. Pourquoi tu te prends la tête pour ça? Ça vaut la peine? Pourquoi? Donc, j'ai réussi, en fait. Et franchement, j'en suis très fière. Je suis très fière que, en fait, il n'y a plus rien, en fait, qui va me mettre mal.
Mais tu vois, c'est fort ce que tu dis là, parce qu'en fait, je pense que c'est un cheminement qui est très, très, très difficile. C'est dur d'arriver à cette conclusion-là, de se dire, il n'y a plus rien qui me mettra mal. Parce qu'en réalité, et ça allait être une de mes prochaines questions, donc toi, tu accompagnes essentiellement les femmes. Peut-être que tu nous diras pourquoi essentiellement les femmes. Mais en tout cas, moi, je trouve que quand on regarde un petit peu autour de nous, force est de constater que c'est pas naturel pour beaucoup de femmes de s'aimer. Ne serait-ce que de s'aimer. C'est pas de se mettre en priorité, c'est de s'aimer.
Ouais.
Beaucoup de femmes, quand tu leur demandes « tu te trouves jolie ou tu t'aimes bien ?» Il y a ce truc de « ouais, non, pas trop, ouais, non, j'ai ça ». Quand tu vois certaines situations dans lesquelles sont les femmes, tu vois très bien que c'est un manque d'amour d'elles-mêmes, en fait, un manque d'estime d'elles-mêmes. Et tu vois, arriver en se disant « non, mais en fait, mon estime de moi, mon amour de moi est plus important que d'autres choses que la société qualifie de très, très important, comme le travail, le mariage, les enfants ». C'est pas simple. Est-ce que toi, tu as vu ce constat-là parmi les femmes que tu accompagnes, cette difficulté à s'aimer? Et d'après toi, pourquoi les femmes, elles ont tant de mal à s'aimer?
Honnêtement, je l'ai vu, je le vois encore, et je me dis, bah déjà, elles se connaissent pas. Ça, c'est une chose.
On en revient à ça, en fait.
Ouais.
Pour toi, le manque d'amour de soi-même est lié à un manque de connaissance de soi-même.
Oui. Parce que déjà, si toute ta vie, tu te calques à la vie des autres, d'accord? Déjà, voilà, dans la vie, il faut dire ce qui est, on porte des masques. C'est-à-dire que quand au travail, tu portes un masque. Quand même, des fois, parce qu'il y a des sœurs, elles se marient, hein, mais elles sont pas elles-mêmes.
Bah, ça arrive souvent.
Oui. C'est-à-dire que être authentique, c'est la base. Si tu es quelqu'un qui est très sensible, eh ben écoute, c'est ok, tu es sensible. Si t'es une personne qui aime beaucoup pleurer, bah écoute, c'est ok. En fait, il est important que si on t'aime pour toi et pas pour ce que tu as envie de véhiculer. Parce que de toute façon, bah, tu vas te rendre mal toi-même. Donc si toute ta vie, tu portes un masque, à quel moment en fait tu le retires? Comment tu peux aimer une personne que t'as jamais côtoyée? Après, c'est la société aussi qui fait ça, parce que quand t'es à l'école, il faut suivre une directive, il faut passer par là, il faut passer par là, et puis si tu passes par là, ben écoute, t'es pas normal, mais c'est pas grave, en fait. Il n'y a pas de normalité, en fait, à être. Il n'y en a pas. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, quoique, j'ai quelque chose, j'ai un caractère, en fait, qui fait que, ben écoute, moi, je suis comme je suis. Si tu m'aimes, c'est bien. Si tu m'aimes pas, bah écoute, tant pis, tu vois. Donc non, j'ai grandi avec ça.
Il y a très peu de femmes qui sont dans cette énergie-là de base. Toi, c'est vrai que c'est ton caractère. Et en plus, enfin, tu vois, j'oublie pas que tu as commencé en disant que toi, avant, tu t'aimais beaucoup. C'est juste que tu t'es perdue. Mais cette base, elle était là. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de femmes, il y a quand même un désir d'être aimée / acceptée, parce que les deux vont quand même souvent ensemble, qui est fulgurant et qui te pousse à être dans des relations où tu es malmené, ce qu'on appelle aujourd'hui des relations toxiques, je mets des gros guillemets parce que ouais. C'est un mot qui ressort beaucoup aujourd'hui,
grave.
En fait c'est un peu le mot valise, mais en tout cas des relations où tu es malmené, ça c'est clair, des relations où tu es malmené, des relations où tu n'es pas respecté, et moi, ça, je le vois plus chez des sœurs que chez des frères. Je dis pas que ça n'arrive pas aux frères, mais j'ai quand même l'impression que c'est lié à des traits féminins. Et je voulais vraiment te demander aujourd'hui pourquoi, en fait, tu as donné un premier élément de réponse. C'est parce qu'elles se connaissent pas. Mais moi, je pense aussi que c'est parce que tu... Ouais, si, c'est vrai, t'as raison, elles se connaissent pas, dans le sens où quand tu connais ta valeur, quand tu sais que c'est quand même le maître des cieux et de la terre qui t'a créé, déjà là, tu te redresses. Déjà là, déjà. Tu te dis, tu sais, j'ai...
Et je suis la créature d'Allah, en fait.
Franchement, je suis une créature d'Allah. Allah, il m'a conçu quand même, il a voulu que je sois là. J'écoutais dans un podcast animé par une sœur chrétienne, et elle avait invité une intervenante qui avait dit quelque chose de très, très juste. Elle disait, tu sais, même les personnes qui ont été abandonnées à la naissance, il faut toujours leur répéter, même si tes parents, ils n'ont pas voulu toi, Dieu, il a voulu que tu sois là.
Je te jure.
Je me suis dit, mais like that part, mais c'est tellement juste, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que même si tes parents, Dieu, il a voulu que tu sois là, en fait. Dieu,
avec ça, en fait, comment tu peux être là et tu te mets en mode serpillère? Non, en fait. Après, c'est vrai que des fois, c'est lié aussi à l'éducation. C'est-à-dire qu'en tant que femme, tes parents, ils veulent que tu sois discrète, ils veulent que tu sois ça, que tu sois ça, que tu sois ça, et puis après tu vas à l'école, et puis tu vois que quand t'es discrète, les gens, en fait, ils t'apprécient pas forcément, ou alors t'es souvent mis à l'écart, tu vois, donc du coup tu montres un caractère que tu n'as pas, tu vois, parce que tu veux rentrer dans le moule, et puis en grandissant comme ça, si toute ta vie t'as fait ça, t'es jamais toi. Quand t'es à l'école, t'es pas toi. Quand t'es avec tes copines, t'es pas toi. Parce que du coup, tu veux être accepté, tu montres un caractère que tu n'as pas.
Puis parfois, même quand t'es en famille, t'es pas toi. Puisque tu vois, comme tu le disais, parfois c'est tes parents qui te disent, sois discrète, soit comme ça. Bah, donc toi, tu sais bien au fond de toi que t'es pas comme ça. Mais pour faire plaisir, tu restes dans ce truc-là. Alors qu'en fait, t'as pas le temps de t'explorer. Tu sais bien que c'est pas ça, c'est pas ton identité. Mais tu sais pas vraiment les limites de ton identité parce que tu l'as pas exploré, en fait.
C'est ça. C'est vraiment ça. Et puis après, voilà, tu fréquentes pas forcément des gens qui sont d'accord avec tes propres valeurs. De toute façon, tes valeurs, tu les connais pas aussi. Tu vois ou pas? Parce que t'es jamais toi. Et puis après, il arrive l'heure où tu décides de te marier. Et vu que ce prétendant, il a des attentes particulières d'une femme, écoute, toi, tu vas dire, ok, c'est bon, moi, je serai comme ça. Mais le truc, c'est que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Surtout dans le mariage, ça ne fonctionne pas. Parce que, en fait, un jour viendra, tu vas péter les plombs. Parce que tes émotions, tu les as trop longtemps stockées. Des fois, t'as envie d'hurler, tu gardes tout en toi. Des fois, t'as envie de pleurer, tu gardes tout en toi. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme ça. Et puis, un jour, tu deviens maman. Et quand tu deviens maman, il y a tout qui change. Il y a beaucoup de choses que tu ne veux plus pour toi. Pourquoi? Parce que t'es maman. Et qu'est-ce que tu ne veux pas? Tu ne veux pas, en fait, que ça arrive la même chose à ton enfant. Surtout à ta fille. Parce que par où t'es passé, tu ne veux pas que ta fille passe par là. Tu vois? Donc, du coup, tu commences à changer. Et ton mari ne comprend pas. Parce qu'il dit, attends, t'as toujours été comme ça, là, d'un coup, tu changes, c'est quoi? Et reste à ta place. Voilà ce qui va se passer. Tu vois? Donc, l'importance de se connaître, c'est éviter tout ça. Déjà, c'est de choisir aussi la personne qui sera bon pour toi. Après, il se peut que tu te trompes. De toute façon, la vie, c'est des risques. Hein. Tu fais des causes pour avoir ce que tu veux. Après, ça fonctionne, c'est Allah qui a voulu. Ça fonctionne pas, c'est Allah qui a voulu. Tu vois.
Mais quand t'as fait la démarche avant de bien te connaître, etc. C'est ça aussi qui est important, c'est que quand t'as fait toute cette démarche avant, si demain ça marche pas, tu peux que te dire franchement, Allah il l'a voulu ainsi, il l'a déterminé ainsi, parce que moi j'ai fait les choses dans l'ordre, dans la manière dont j'ai rencontré le frère ou la sœur, j'ai fait ce travail de bien me connaître. Bon voilà, c'était une expérience en plus que je devais ajouter à mon long CV de la vie, mais c'est pas lié au fait que j'ai fermé les yeux en me disant c'est pas grave, je vois bien que ça va pas, mais j'y vais quand même. Je vois bien qu'il y a des choses, quand il me dit que moi je cherche une fée du logis, moi je suis une flemmarde, j'ai la flemme dans les veines, mais j'y vais quand même en lui disant ah si moi le ménage j'adore. Ça c'est pas bon, tu vois.
C'est grave.
Mais en même temps, je pense que beaucoup l'ont fait, et moi pour être très honnête, si j'avais pas travaillé sur ma personne, si je m'étais mariée dans ma vingtaine, moi, ces horaires-là, je les aurais faites. Hein. Alors là, très tranquillement, hein, parce qu'il y a ce truc de vouloir être aimée à tout prix, en fait. Quand on dit à tout prix, c'est vraiment au prix de ta personne. Donc clairement, à tout prix. Sauf que tu ne te rends pas compte, quand t'es jeune, des conséquences que ça a, en fait. Parce qu'en fait, toi, tu te dis, c'est pas moi, cette personne-là, là, cette personne... un peu Brie Van de Kamp, qui fait des muffins tous les matins, qui tient sa maison comme jamais, alors qu'elle a 36 pièces, qu'elle vit dans un manoir, tout ça. Toi, tu dis, non, mais moi, je veux être cette personne. Donc, même si je ne le suis pas, ce n'est pas grave, parce que comme je veux tendre à ça, ce n'est pas grave, quoi. Ce n'est pas moi, mais c'est moi dans quelques années. Alors qu'en fait, potentiellement, ce ne sera jamais toi, en fait. Ce n'est pas grave, tu vois. Ce n'est pas grave, parce que de toute façon, tu n'as pas vocation à vivre dans un 36 pièces, tu vois.
Ouais.
Ce n'est pas grave. Ouais. Mais. Si t'as pas ce truc de pourquoi je veux être comme ça, déjà de réfléchir avec toi, pourquoi je veux être comme ça, c'est pour plaire à la société ou c'est vraiment un goal que je veux et auquel cas, ok, j'y vais, mais je me bouge vraiment et je me donne les moyens. Donc, je pense vraiment que c'est important de dire aussi aux personnes qui nous écoutent que ces erreurs-là, on est beaucoup, soit à les avoir faites, soit on les aurait faites si on s'était marié plus jeune, ça c'est sûr. Et j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur un résumé de. Ce qui fait qu'on ne s'aime pas, c'est que souvent, on se connaît pas. Vraiment, on ne connaît pas son identité. On ne connaît pas sa valeur, on l'oublie. C'est-à-dire que, et notre valeur, elle est quand même, à mon sens, intimement liée à notre créateur. C'est-à-dire qu'on est des êtres de valeur parce qu'en fait, notre créateur, il y a au-dessus de lui, il n'y a personne. Littéralement. Donc, il nous a créé en tant qu'individu, en tant qu'être avec une âme précieuse. Et rien que ça... Ça fait de nous des êtres précieux, tout simplement. Parce que notre créateur l'est au-delà de toute définition et au-delà de bien des mots. Est-ce qu'il y a autre chose qui permet, non pas du coup de comprendre pourquoi les personnes ne s'aiment pas, mais plutôt de voir comment on fait pour préserver son amour de soi. Comment on fait pour s'aimer ? Alors j'ai bien compris, hein, on se consacre du temps, on se retrouve. On se recherche, ça aide vraiment à s'aimer. Est-ce que tu vois d'autres choses? Et puis surtout, comment on fait pour le préserver sur le long terme, cet amour de soi, pour le préserver?
Déjà, moi, je pense, bon, comme je te l'ai dit, hein, du coup, apprendre à se connaître. Vraiment, c'est vraiment très, très, très important.
De continuer à apprendre à se connaître. Alors.
Voilà.
C'est-à-dire que tu le préserves en continuant d'être toujours au contact de toi-même, c'est ça?
C'est-à-dire, oui, c'est ça. Et aussi, d'accord. Faire une mise à jour de sa personne. Parce que,
tout à fait, ok.
Parce que la toi jeune fille et la toi mariée, il y a des choses qui changent. C'est pas pareil. OK? Et puis aussi quand tu deviens maman, il y a autre chose en fait. En fait, à chaque étape de vie, chaque étape cruciale de ta vie, je pense qu'il est important de faire une mise à jour de ta personne. Ça te permet de pas t'oublier déjà et ça te permet aussi de t'accepter tel que tu es parce que et aussi ça te permet de prendre conscience à chaque mise à jour que tu n'es pas faite de fer. Tu es un être humain avec des émotions et c'est pas parce que aujourd'hui tu deviens maman que ça veut dire que t'es de roc, t'es de fer. Parce que non, c'est faux. Et aussi, je pense également qu'il est important de s'autoriser à pleurer.
On a bien compris, les émotions, c'est important. Gounou.
Ah oui, c'est important, je te jure, c'est très important.
Mais pourquoi c'est important de pleurer? Parce que tu vois, enfin, pour moi, c'est pas grave, non, de pas pleurer. Pourquoi c'est important de pleurer?
Bah, écoute, je pense que déjà pleurer, ça te permet de, tu vois, de te décharger. Tu vois, ça te permet vraiment de te décharger et ça te permet aussi d'aller de l'avant. C'est-à-dire que voilà, ce matin, bah écoute, il y a des matins, des fois, on se lève, on n'est pas très bien, tu vois. Et pour éviter en fait de pas être bien pendant 3-4 jours, pleure, évacue. Pleure, ça fait du bien. Et okay. Puis, ça veut pas dire que tu es une personne faible. On est des êtres humains. Si Dieu il a fait qu'on pleure, c'est pour une raison. Il y a une sagesse dans toute chose, tu vois. Donc pleure un bon coup. Et puis une fois que tu auras fini de pleurer, tu vas voir qu'il y a t'as de l'énergie qui va revenir. Et d'un coup, tu vas aller de l'avant. Alors que tu vas pas être bien un jour. Tu vas pas être bien deux jours. Pendant une semaine, tu seras pas bien. Ça sert à quoi? Honnêtement. Il y a quoi de bénéfique là-dedans? Pas être bien toute
la
semaine.
En fait, souvent, de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est qu'en fait, se forcer En fait, se forcer à vouloir aller bien alors que ça va pas bien, tu mets sur mute tes émotions, alors qu'en fait, elles sont là, donc ça ne sert à rien, parce qu'en fait, tu les mets sous un tapis, mais en fait, a priori, ça ne les fait pas disparaître, n'est-ce pas ?
Mais c'est
grave. Et il y a ce truc de... oui, il vaut mieux dealer avec le plus tôt possible, gérer, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours l'émotion, c'est un très, 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 très mauvais décideur. Par contre, c'est un mauvais. L'émotion n'est pas faite pour décider. Par contre, c'est un bon indicateur.
Oui.
C'est-à-dire que l'émotion, elle est toujours là pour te dire qu'il y a quelque chose. Par contre, décider uniquement avec son émotion,
non,
c'est pas la meilleure des choses. On est d'accord.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est un indicateur d'une réalité. Donc en fait, nier ses émotions, c'est nier une réalité. Et en fait, tu ne fais rien d'autre que la retarder, en fait, ça va te revenir en boomerang, en fait.
Voilà, moi j'appelle ça du stockage d'émotions. C'est-à-dire que
tu
stockes dans un vase, tu vas stocker, mais le jour où ça va péter, tu vas vivre toutes tes émotions en même temps.
Ouais, et puis le vase, il sera tellement rempli que
ça va te chambouler.
Ce que tu prends à la figure, c'est énorme, en fait, parce que
mais
c'est
trop. Et là, écoute, c'est très dur.
D'accord.
C'est très dur, donc autant pleurer à petite dose, tous les jours, plutôt qu'un jour, tu ne peux plus, tu pètes les plombs et tu tombes en dépression.
Ok. Donc, si je résume, si on poursuit, apprendre à se connaître, rester au contact de sa personne, faire des resets de temps en temps, en tout cas des mises à jour, peut-être pas des resets, mais des mises à jour, de se dire j'en suis où là sur ma personne, parce qu'en fait, on est des êtres changeants et en mouvement. Et ça, je crois d'ailleurs, ça fait partie de la racine étymologique du terme annas, c'est-à-dire que l'être humain, comme Allah il l'a créé, c'est un être de mouvement en fait. Et pour des gens. Un peu comme moi, qui n'aiment pas le changement, qui sont très frileux un peu des changements. Alors, en fait, se souvenir que Allah il nous a créés en mouvement, ça aide de se dire qu'en fait, ça fait partie de nos personnalités et de ce comme Allah il nous a créés, quoi. Donc, faire des mises à jour régulièrement et accepter que nous sommes des êtres changeants. Est-ce que tu as d'autres choses pour préserver son amour de soi ?
Accepter qu'on n'est pas de fer. Ça, il faut vraiment l'accepter parce que
qu'on n'est pas de fer. Okay.
Voilà, on n'est pas de fer. Des fois, on va pas bien et c'est ok. Des fois, on n'arrive pas et c'est ok. Mm-hmm. Ça, il faut vraiment l'accepter. Et puis prendre soin de soi, s'accorder du temps, s'accorder des petits moments pour soi, même si c'est 2 minutes par jour, tu le fais, tu vois. Parce qu'on a tendance vraiment à toujours courir, surtout ici. On a tendance tout le temps à courir et on ne prête pas attention du coup aux signaux que notre corps nous envoie.
Mm-hmm.
Et quand tu ne prêtes pas attention, un jour tu tombes.
Ouais, c'est clair. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, je réalise à quel point l'amour de soi et la connaissance de soi sont liés. Et tu sais, quand j'ai préparé mon interview, en fait, il y avait toute une première partie où je voulais te parler de l'amour de soi et de la deuxième de la connaissance de soi. Mais en fait, subhanallah, on a fait les deux en même temps parce qu'en fait, les deux sont profondément imbriqués.
Grave.
Et ça, c'est vraiment ma découverte suite à notre discussion. C'est qu'en fait, pour moi, de ce que je comprends, il n'y a pas d'amour de soi sans connaissance de soi et il n'y a pas d'amour de soi sans connaissance d'Allah. C'est-à-dire, c'est vraiment les deux pans, en fait. Et tu vois, je me permets de parler de ce dont on a parlé avant de s'enregistrer. C'est qu'en fait, tu as créé un groupe Telegram avec un groupe de femmes. Et en fait, tu disais que dans ton groupe de femmes, il y a des personnes, une personne notamment qui n'est pas musulmane, mais qui a tenu à être là. J'ai l'impression que, moi, ce que ça dit pour moi de tout ça, c'est qu'en fait, tu ne peux pas cheminer vers toi-même Sans spiritualité, sans Allah à tes côtés, en fait.
Ouais. Et pourtant, voilà, tu vois, cette sœur, elle est bien consciente. Tous les matins, on se passe le salam, on se réveille pour la prière, tu vois. Notre quotidien, il est vraiment autour de notre spiritualité. Et pourtant, voilà, elle veut être là. Écoute, alhamdoulilah, t'es bienvenue. De toute façon, c'est un groupe pour les femmes en soi. Et puis, c'est une femme, d'accord. On rencontre... grosso modo, toutes les mêmes problématiques en soi. Et c'est un groupe
de... C'est quoi les mêmes problématiques ?
C'est-à-dire que on galère toutes de la même façon en soi, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont un peu trop... moi, je suis parfaite, moi, j'ai pas ça, mais c'est faux, d'accord ? Par exemple, je sais pas, des choses toutes bêtes, une femme qui galère à faire à manger, elle sait pas faire, tu vois. Cette femme-là, c'est une experte dans le rangement, par exemple. Donc, son savoir, elle peut l'apporter à une autre. Et l'autre, elle peut lui apporter. En fait, entre femmes, on devrait être plus solidaires parce que c'est beaucoup plus simple pour nous de surmonter, en fait, notre quotidien. Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au quotidien d'une femme qui n'est pas mariée, par exemple, qui voudrait avoir des informations sur le mariage, parce qu'en soi, on n'est pas préparé forcément au mariage, tu vois. Et une femme qui a de l'expérience dedans, elle est plus à même à te conseiller, déjà dans le bien, à te conseiller aussi pour éviter de faire certaines erreurs, donc c'est aussi un message de prévention, pour pas que tu tombes. Et puis la femme qui est déjà passée par là, bah écoute, c'est un grand soutien pour toi, parce que tu sais qu'elle a vécu ce que tu as vécu. Donc moi, en fait, j'ai toujours voulu, en fait, je comprenais pas pourquoi, quand je me suis mariée, il y a des choses que je ne savais pas. Sachant que j'avais énormément de femmes qui étaient mariées autour de moi. Et limite, quand en fait tu vis des choses difficiles dans ton mariage, t'as l'impression que c'est toi en fait tu gères mal, parce que tout le monde gère. Alors que c'est faux. Personne ne gère parfaitement. C'est pas vrai. Tu peux vraiment être une bonne ménagère, une bonne épouse, une meuf qui taffe pas, dans tous les cas, tu rencontres des difficultés parce qu'on n'a pas été préparé à ça.
Et pourquoi, à ton avis, on ne donne pas les informations du coup aux personnes qui rentrent et c'est un peu le Kinder surprise quand tu rentres dans le mariage?
Bah en fait, je me dis, limite, c'est « moi j'ai galéré, ben galère aussi ». Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça.
Tu vois, mais c'est hyper intéressant, ouais, carrément.
Tu vois, j'ai galéré, ben galère aussi. C'est comme ça, tu vas passer par là. Alors que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que déjà, le temps de nos mamans, ben, du coup, les mariages, déjà, ils duraient plus. Aujourd'hui, t'entends divorce, ça tout va. Mais s'il y a divorce, c'est qu'il y a eu des problématiques. Donc, quelle erreur, toi, tu as commis, ma sœur? Quelle erreur, en fait, tu peux nous éviter de faire, alors? Quelle croyance tu avais quand t'es rentrée dans ton mariage? Quel regret tu as aujourd'hui? Tout ça, en fait, ça sert tout le monde. Que je sois mariée ou pas, si jamais une sœur, elle me dit « Oui, machin, j'ai divorcé », même si je suis déjà dans le mariage, il y a des choses que je peux rectifier.
Mais après... Pardon, hein, je t'interromps 5 secondes, mais pour avoir vu des études sur la question, le taux de divorce est supérieur quand les personnes se marient une deuxième ou une troisième fois. Et moi, au début, j'étais choquée. Je me suis dit, t'es censée avoir appris de tes erreurs quand même, donc normalement, tu te remaries une deuxième fois. Et en fait, l'étude disait, bon, après, c'était une étude aux États-Unis, hein, mais l'étude disait qu'en fait, non, il y a plus de divorces dans les deuxièmes, troisièmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu viens dans ton deuxième mariage avec les mêmes bagages. T'as même plus de bagages que le premier parce qu'en fait, t'as pas fait le ménage. Et donc, toi, en fait, quand tu divorces, tu dis « Oui, mais c'est parce que mon mari, il était comme ça, comme ça, comme ça. Oui, parce que ma femme, elle était comme ça, comme ça, comme ça. » Et en fait, t'es tellement focalisé sur ce que ton épouse, elle a pas fait ou ton époux, il a pas fait que t'as pas travaillé sur toi, en fait. Il y a aussi ce truc de « Pour moi, alhamdoulilah, ça va, quoi. Moi, j'ai pas fait d'erreur. Ouais. Moi, c'est plutôt mon mari. » Le Nasbrock, et donc du coup, peut-être aussi qu'il y a cette raison-là, alors ou Harlem, tu vois, mais je me dis que ça peut être aussi une des raisons qui fait que l'information a du mal à circuler.
Bah voilà, bah écoute, on rentre pile poil dedans, parce que comme tu le sais, j'accompagne aussi les sœurs dans leur relation conjugale, et elle me dit voilà, bon, il y en a la plupart, il y a des sœurs qui me contactent parce qu'elles sont pas encore mariées et que du coup elles aimeraient être formées à l'entrée au mariage, tu vois, en tout cas en savoir au max. Là-dessus, il y a des sœurs, ça va pas du tout dans leur mariage et donc vu que des fois monsieur ne veut pas ne veut pas aussi se remettre trop en question ou suivre du coup une thérapie de couple, moi j'y écoute ma sœur. Moi j'entends ce qu'elle me dit, d'accord, je suis là pour écouter, mais j'y écoute. Toi t'as fait quoi? Parce que c'est toujours beau, c'est toujours plus facile de montrer une personne du doigt, mais regarde les doigts qui sont de vers toi. Parce qu'en soi, t'as le pouvoir, en fait, de changer. T'as le pouvoir de t'améliorer. Mais tu n'as pas le pouvoir sur ton mari. D'accord? Donc, toi, fais en sorte d'être irréprochable. Et à ce moment-là, tu verras lui. Parce qu'on dit souvent que c'est l'homme qui éduque la femme. Mais la femme aussi, elle éduque l'homme. Tu vois? Quand tu as un certain comportement, ton mari ne s'autorise pas à avoir un certain comportement avec toi.
Ça, tu l'as vu?
Oui. Complètement. Et puis, je le vis moi-même.
D'accord.
C'est-à-dire que voilà, j'ai énormément de respect pour mon mari, mais il sait qu'il est important qu'il ait énormément de respect pour moi. Je veux le bien pour lui, il veut le bien pour moi. En fait, des fois, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, on me fait ça, moi, on me fait ça, moi, on me fait ça. » Tu sais, quand on allait en cours et tout, il y a des profs avec qui tu te permettais d'arriver en retard. Tu vois ? Il y a des profs avec qui tu pouvais discuter. Il y a des profs, c'est mort. T'es toujours à l'heure. Tu bouges même pas de ta chaise. Parce que tu sais que tu pouvais pas te permettre de le faire.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Tu vois ? Donc, en soi, c'est pas que... Parce que des fois, on dit, oui, mais moi, peut-être ton mari, il a peur de toi. Je dis, non, c'est pas qu'il a peur de moi, en aucun cas, tu vois. C'est que, il sait qu'avec moi, il peut pas se permettre. Et comme moi, je sais qu'il y a des choses, je peux pas me permettre. Parce que, en soi, mon mari, il a pas peur de moi. Tu vois. Comme moi, j'ai pas peur de lui. Mais, il y a une façon d'être. Il y a une façon de se comporter qui fait qu'il y a des gens les gens ne se permettent pas d'avoir un certain comportement avec toi. Et puis il faut dire ce qui est, en tant que femme, si jamais ça se passe pas bien, pour moi en tout cas, t'as le plus à te perdre. C'est toi la femme qui a le plus à perdre. Tu vois ou pas ?
On a déjà parlé ça, mais ouais. Je trouve que c'est important que tu le redises ici. Pourquoi la femme, elle a le plus à perdre si demain ça se passe pas bien avec son époux ?
Voilà. Parce qu'en soi, franchement, ton mari, s'il veut te mettre la misère, il peut te la mettre. Facile, tu vois ? C'est-à-dire que voilà, au jour d'aujourd'hui, compte une femme, en tout cas si tu veux respecter... les règles, quand tu sors, il faut avoir l'autorisation de ton mari. Il faut qu'il soit en accord avec. Après, bien sûr, t'as tes jambes, hein. Si tu veux sortir, tu vas sortir. Mais, les retombées.
Les conséquences.
Au jour d'aujourd'hui, nous, on cherche à s'améliorer, à avoir le meilleur des comportements. Tu vois. Donc, si tu veux avoir le meilleur des comportements, déjà, comporte-toi bien avec ton époux, sachant qu'il a énormément de droits sur toi. Donc moi aujourd'hui ça marche en fait en gros je respecte pas mon mari, je suis mauvaise. Si demain je dis oui, je sors, je vais me balader avec mes copines, il me dit non, je suis pas d'accord. C'est qui va galérer ici? C'est moi. Il m'a dit non, bah écoute, je vais pas m'ambiancer avec mes copines. Je reste à la maison. Je peux le faire, mais de toute façon, je paye les conséquences. Donc, moi, quand je sors, je veux avoir la baraka en sortant. Tu vois. Je veux avoir des récompenses.
C'est bien que tu dises la baraka, c'est qu'en fait, mais merci. En fait, c'est-à-dire que tu veux que ça se passe bien dans ton foyer, mais tu veux faire la baraka d'Allah. Parce qu'en fait, n'oublions jamais que quand on s'aime et quand on se marie pour Allah. Donc, en fait, ce truc aussi de se dire, le respect, c'est une option que je mets sur mon mariage. Il y a plein de choses qui sont obligatoires, mais le respect, c'est en option. Ça vient que s'il me respecte. Déjà, ça ne fait pas partie des règles du mariage. Ouais. Et en plus, potentiellement, au-delà du fait de craindre son époux, son épouse, craignons Allah, en fait. Parce que c'est lui, hein, c'est qui rémunère. Hein. C'est lui qui rémunère. Donc derrière, si on ne fait pas bien notre travail, c'est lui qui derrière nous retire de la paye, tu vois. Oui, c'est lui qui derrière.
Mais c'est ça.
Il nous attend, en fait. Il nous attend à la sortie, en fait. Et ça, on ne devrait jamais l'oublier, en fait.
Mais c'est ça. En fait, on est soumise à notre créateur, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs qui... féministes. C'est quoi déjà être féministe? J'aimerais bien le savoir. C'est pas parce qu'en fait, t'as trop de fierté mal placée que ça veut dire que t'es féministe. Parce que... en tout cas, de ce que j'entends, et c'est pas des choses que j'aime particulièrement, c'est-à-dire, oui... moi, je fais comme ça avec mon mari, il est content, il est pas content. Mais tu te prends pour qui? Non, mais tu vois, il est content, il est pas content.
C'est la question, là, en fin de conversation, tu te prends pour qui?
Mais c'est ça, mais tu te prends pour qui? En fait, à partir du moment où tu t'es mariée, d'accord, ton mari, il a plus de droits sur toi que tes propres parents. Ok? Donc, qu'est-ce que tu ne fais pas à tes parents, le fais pas à ton mari. Le fais pas à ton mari. Et le fait de te gonfler, ça va t'apporter quoi de positif? Et nous, on veut le paradis. Ok?
On est là pour ça.
Ah oui, on veut le paradis. Donc, et un bon comportement avec lui, il aura un bon comportement avec toi. C'est quel mari, honnêtement? T'es une bonne épouse. D'accord? Tu t'occupes bien de lui, bien de tes enfants. Pourquoi il va te faire la misère? Pourquoi? Attends, il sait très bien que c'est donnant. Il dit, ma femme, elle est douce avec moi. Pourquoi je vais faire le fou avec elle? Maintenant, si tu veux faire la folle, fais la folle. Mais il fera plus le fou sur toi derrière. Que toi.
Mais, ok, et c'est en ça, en fait, que la femme, ça, elle a plus à perdre que le mari, en fait. Psychologiquement, parfois même physiquement, la vie peut être très, 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 très difficile, si ce n'est invivable. On n'est pas en train de dire qu'il y a des femmes qui cherchent des coups, etc. Ce n'est pas du tout le propos. Mais le propos, c'est, encore une fois, et c'est un terme qui m'est cher et qu'on entend beaucoup dans beaucoup des interventions que je peux faire avec le Halal Love, de la part des intervenants eux-mêmes, c'est la responsabilisation de chacun. Et ça, Ali Habibi le dit très bien dans l'épisode 3, en fait. Être musulman, c'est être responsable. Allah, il nous a créés comme des... On est des califes sur cette terre, en fait. Donc, on a tous une responsabilité, on vient avec. Et en fait, se dire à chaque fois, c'est pas moi, c'est l'autre, dans une relation où on est deux, ça semble compliqué. C'est-à-dire qu'au moins, tu l'as choisi. C'est ça. Et ça, si au moins on pouvait avoir cette responsabilité-là, ça, ça aiderait.
C'est ça. Franchement, en tant que femme, on a énormément de responsabilités quand on choisit, quand on prend la décision de se marier. Parce que c'est quelque chose qui va t'impacter toute ta vie. Donc l'importance, encore une fois, de se connaître, de savoir ce que tu veux déjà, quels sont tes besoins dans le mariage. Parce que t'as pas conscience de ça, en fait, tu vas à l'aveuglette, en soi. Et puis si, pour toi, le respect, c'est quelque chose de primordial, eh, tu le dis avant, en fait. Tout ce que t'as à dire, tu le dis avant. Et au début du mariage, et même avant le mariage, c'est toi qui as le power. D'accord? Ok? C'est toi qui as le power. Si tu vois que c'est pas quelqu'un qui est fait pour toi, et c'est quelqu'un, en fait, qui pourra pas, en fait, avoir un rôle d'époux dont tu as besoin, rentre pas dedans. Donc, mes sœurs, franchement, faites attention. Avant de vous marier, essayez d'avoir le plus d'informations possible. Le plus, déjà sur vous, et sur la personne avec qui vous allez vous marier. Et après, ayez un bon comportement. Parce que nous, on aura tous un jour un compte à rendre, d'accord? Et le but aussi, c'est pas en fait de vivre une vie de misère. Autant que ça se passe bien à la maison. Parce que tu vas galérer toute ta vie.
Et personne veut ça, hein.
En tout cas, personne veut ça. Moi, je connais personne qui veut ça, en tout cas. Tu vois? Après, voilà, si t'es déjà mariée et que tu rencontres des difficultés, il y a toujours moyen. Faut pas dire oui, c'est foutu. Donc, il faut absolument que je divorce. Pas du tout. Honnêtement, j'ai accompagné des sœurs où, franchement, elles étaient à bout de bout. Elles se sont reprises. Elles ont travaillé sur elles. Et ça a été, il y a eu un impact, en fait, sur leur mari.
Bah, Anouk, elle le dit, ça, dans l'épisode 12, je crois. Elle dit qu'en fait, le 1 change le 2. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment croire en le fait que si toi, tu changes, tu vas avoir un impact sur ton mari. Il faut vraiment que ton mari, il a un grand, grand, grand problème de comportement, voire psychologique, pour continuer de mal se comporter alors que toi, tu donnes tout.
C'est ça.
Forcément, si toi, tu changes, tu amènes de l'amour, tu donnes de l'affection, tu repars sur les bases de qu'est-ce que veut un homme, parce que ça, il faudrait qu'on en refasse tout un épisode aussi sur... Faut qu'on apprenne. C'est pas qu'on réapprenne, faut qu'on apprenne quels sont les besoins d'une femme et quels sont les besoins d'un homme. On n'est pas pareil. Donc, on n'a pas les besoins aux mêmes endroits. Et si à chaque fois, on se dit « Ouais, mais ça fait un peu pitié ce besoin-là », on ne va pas avancer, en fait.
C'est ça.
On ne t'a pas demandé de juger le besoin de l'un ou de l'autre. On t'a dit « C'est ça son besoin, en fait. » Et quand ce besoin-là, il est assouvi, bismillah, machallah, la vie, elle sera quand même vachement plus douce, en fait. Donc, connaissons les besoins des uns et des autres, agissons avec respect, apprenons à nous connaître, apprenons à connaître notre Créateur et à nouer un lien avec lui. Et on aura, bismillah, un mariage paisible et heureux. Et quand bien même, en fait, on n'est pas marié, on aura, bismillah, une vie paisible et heureuse. Parce que, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, toute cette discussion-là, ça nous a amené à la question, c'est quoi être... Faire une bonne muslima, mais avoir un bon muslima mindset, en fait. Le sens de responsabilité, chercher le ilm, la connaissance de soi, la connaissance d'Allah, garder le respect comme valeur profonde, avoir le sens des responsabilités.
Se remettre en question. Voilà. Et pas toujours penser que c'est les autres, c'est les autres. Parce qu'il y a des manquements aussi chez toi. Et toi, tu as juste la possibilité d'avoir un impact sur toi. L'autre personne, elle se gère. Toi, tu te gères, toi. Faut qu'on se surveille, en fait. Surveillons-nous. Parce qu'on n'est pas à l'abri, en fait, d'avoir des manquements. Désolée, je parle du nez.
Gundo, elle est malade et elle a pris le temps de participer à cette conversation. Et pour ça, on te remercie grandement pour tous les enseignements que tu nous as prodigués, bien évidemment. Mais pour le fait d'être présente alors que vraiment, tu n'es pas au top de la santé, bah, franchement, alhamdoulilah, c'est un honneur pour nous.
Ah, bah, écoute, le nord aussi pour moi. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment d'échange, Inch'Allah.
Inch'Allah. Ben écoute, je franchement le bonheur il a été partagé et je trouve que c'est une conversation qui est riche. Je pense qu'il y a dans cette conversation là, il y aura des vérités qui sont peut-être difficiles à entendre, qui seront peut-être inédites pour certaines de nos sœurs, mais rappelons-nous que tout ça on le fait pour Allah en fait. C'est-à-dire que si moi j'ai un message à faire passer, c'est que quand on veut être une meilleure personne, on le fait pour renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous que la relation du mariage est une relation triangulaire et qu'avant d'avoir cette relation triangulaire entre ton époux, toi et Allah, ou ton épouse, toi et Allah, il y a une relation bidirectionnelle entre Allah et toi en fait. Celle-là, elle doit être travaillée avant qu'il y ait une autre personne qui vienne et qu'ensemble vous formiez un triangle en fait.
Tout à fait. Et prenons vraiment conscience que tout ce que nous faisons dans ce bas monde, nous le faisons pour nous, si c'est un bien. Et si c'est un mal, on le fait contre nous. On sera jugé. Donc, dis-toi que même si monsieur n'a pas eu un bon comportement avec toi, toi aies le bon comportement parce que tu le fais pour toi et tu seras récompensé pour cela.
Amen.
Alors que, voilà, à contrario, si jamais il te fait un mal et que tu le rends par le mal, tu payeras aussi pour ça. Tu vois ? Donc, surveillons-nous. Vraiment, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la base. Et puis, tu verras que de toute façon, le bon comportement paye.
On va clairement clôturer là-dessus. Le bon comportement paye. J'aime beaucoup. Je te remercie vraiment beaucoup, Gundo. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaitent te suivre, prendre contact avec toi, te demander une consultation?
Alors, bah, écoutez, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Gundo Diamantaire. Et puis, celles qui veulent intégrer le groupe des femmes précieuses, sur Telegram, ou si vous me contactez sur Insta, et Inch'Allah, je vous enverrai le lien.
Voilà. Merci beaucoup, Gundo, pour ta disponibilité, pour ta douceur, ton empathie. C'était un très, très bon moment et je ne doute pas que tes enseignements ils seront très, très utiles à la Oumma. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam. Merci beaucoup, ma sœur. Que Allah te récompense.
Amin.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Zawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.